Je voudrais savoir quel est ce virus qui t'a donné cette fièvre enthousiaste et créative et que tu nous as transmis un encouragement et des envies pour cette longue journée où on a beaucoup pensé, on a réfléchi et qui ont fini plutôt frais et avec des nouvelles idées. Je dirais, je ne sais pas si c'était inconscient ou pas, mais je dirais un témoignage. Une des choses qui arrivait avec Victor, qui était grand comme toi, il faisait aussi 1m90, c'était qu'on sortait avec une espèce d'enthousiasme intellectuel et pour la pensée, qu'on avait envie et de connaître davantage, qu'on se rendait compte peut-être de tout ce qui nous restait à faire, et malgré tout ce qu'on aurait pu faire dans notre vie. Et je pense que tu as retrouvé, bon, c'est ton enthousiasme à toi, mais moi je l'entends aussi comme cet enthousiasme, finir cette journée, comment finir avec Victor à l'intérieur aussi, avec cette envie et cet enthousiasme que tu as bien pu nous transmettre en nous proposant un programme pour les psychanalystes du 21e siècle. Alors, il y a... Oui.
Je pense que c'est ce qu'il aurait aimé, c'est qu'ils ne se soient pas donnés tous mal pour faire ces travaux-là, pour que ça devienne « Oh, c'est un très joli bouquin, je vais le mettre dans ma bibliothèque, il est rose, tiens, j'ai du rose ici et du rose ici, je vais le mettre au milieu. » Si c'est pour ça, ben alors il est mort pour rien. Je veux dire, il a œuvré toute sa vie pour quelque chose, pour rien, si on n'en fait pas quelque chose. Alors après, on est libre, on l'utilise comme on veut, chacun se fait son Victor, etc. Ça, ok, mais au moins on en fait quelque chose.
Pour finir, parce qu'on était contraint de finir, je vais donner la parole, on va manquer des dialogues, ça nous ouvrirait à des journées entières. Je vous invite, il y a en vue à l'horizon une journée à Lyon, et donc... Ça se poursuivra et on n'écarte pas la possibilité qu'il y ait aussi une journée dans le sud, éventuellement à Aix-en-Provence. On n'écarte pas cette possibilité non plus. C'est-à-dire que c'est que... Et puis vous avez toutes vos pratiques et vos connaissances pour pouvoir continuer à développer. Donc malheureusement, il va falloir qu'on arrête. Deux interventions pour finir. Et je regarde Anne et Sylvain, directeurs des labos, qui nous ont un peu... accueilli. Mais en tout cas, il y a Emmanuel Reichmann qui a connu et la périnatalité et Victor. Et peut-être les mots de la fin pour Marcelo. Et nous, on reste en France, on aura l'occasion de se rencontrer plus souvent. Mais je pense que c'est important que Marcelo, qui va bientôt retourner en Uruguay, puisse amener aussi un message vivant pour tous ses collègues uruguayens qui ont travaillé avec Victor avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur, et qu'il puisse aussi raconter un peu notre journée et un peu quel est son sentiment et son témoignage. Je vais ajouter une information. Merci à Xavier qui, avec beaucoup de patience et je crois que des compétences, j'espère, a pu filmer cette journée, parce qu'il y a beaucoup de collègues uruguayens qui ont beaucoup souffert de ne pas pouvoir être là, qu'ils auraient beaucoup souhaité être là, et le mieux que nous pouvons lui offrir aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir là aussi une filmation de cette journée dans les sites de Psinem, où il y a les autres documents pour Victor, et qui va être entrer et télécharger petit à petit à partir d'ici un mois ou des mois. Donc tous ceux qui n'ont pas pu participer à la journée auront peut-être dans quelques mois l'occasion de les voir. Voilà. Alors parole à Emmanuel et puis à Marcelo.
Par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Rossillon et Anne Brun, il y a quelque chose pour compléter l'anecdote du prisonnier politique qui raconte comment, avec une reprise rythmique, ça en passe par une relation effective et concrète de la relation à un objet totalement malade. C'est-à-dire que pour rendre quelqu'un fou, Victor racontait ça, c'est qu'on le prive de rythme. Et donc les prisonniers politiques étaient privés de rythme nictéméral. Hein. On venait, on les réveillait pendant la nuit, ils n'avaient plus de rythme. Donc là, il y a une rencontre totalement dysfonctionnante avec l'objet, mais pour de vrai, dans la réalité effective. Et quelque chose de tout à fait phénoménologique, qui n'est pas du tout dans le fantasme, qui est dans la concrétude des choses, Victor, moi ça m'avait beaucoup aidé dans la clinique, racontait que le début de la reprise rythmique pour se refaire une existence, avant la danse, était, avant même la rencontre avec l'objet, était une récupération narcissique par des rythmes musicaux où il tapait avec des ustensiles de cuisine ou avec des choses comme ça. D'abord soi et ensuite l'autre, mais amoché par l'autre, par le tyran. Et si bien que... alors moi, Victor, je dis très rapidement, je suis tombé sous son charme en 2 secondes. J'ai eu une grande émotion, je ne croyais pas à sa mort non plus. Je l'ai vu 4 fois dans ma vie, je suis comme vous, c'était un gars extraordinaire. Et en 4 fois, ça s'est senti tout de suite. Et je pense qu'il aurait apprécié les discussions qu'on aurait eues à propos de la critique que je vais faire, à propos du concept d'intersubjectivité. Vous l'avez dit, c'est compliqué, monsieur Roussillon, c'est compliqué d'être en relation avec un sujet. Parce que c'est ce sujet qui va nous penser, qui va avoir des projections sur nous, qui va être plus ou moins équilibré, taré, disponible. Alors, André Carrel, qui a beaucoup travaillé sur le groupe, famille, et puis la périnatalité pour de vrai, concrète, il a commencé en néonatologie en voyant les bébés pour de vrai, lui, il parle d'intersubjectalité. Je proposerai ça. Parce que je vous vois venir, Sylvain, Bernard et vous, Sylvain a terminé son PowerPoint sur la 3e topic, hein. Et il y a intersubjectalité, par exemple.
Le terme d'intersubjectivité a été confisqué par le courant de la côte californienne, et qu'effectivement, ils ont une théorisation de l'intersubjectivité, y compris aussi par des gens comme Dan Stern, etc., qui parlent d'intersubjectivité. Alors, le problème devant lequel on est, nous, par rapport à ça... Et moi, je me bagarre là-dessus en disant, moi, je renonce pas au terme d'intersubjectivité, mais je rappelle en permanence qu'un sujet a un inconscient et que la dimension dans l'intersubjectivité de l'exploration de l'inconscient et de l'intention cachée de l'objet ou inconsciente de l'objet est une dimension tout à fait fondamentale. Alors, je pense que si on rappelle effectivement qu'un sujet... c'est pas un sujet plat et uniquement à la surface de lui-même, mais qu'il a une intériorité complexe, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut parler d'intersubjectivité sans que moi ça me gêne.
C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je pense que le concept d'intersubjectalité rappelle plus exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fonctionnement inconscient et fantasmatique du sujet, que, en effet, le label cognitiviste et hautement cognitiviste de l'intersubjectivité. Mais comment le rappeler pour le rappeler, oui.
C'est-à-dire qu'on peut repartir à la reconquête de l'intersubjectivité en établissant une bonne critique de ce qui s'est passé sur la côte californienne. C'est-à-dire on peut aussi argumenter. Marcelo.
Comment c'était, Alberto, que je n'avais pas resté en France avec Bolsonaro et Macri? Il y a un début d'un nouveau cycle, d'un nouveau période qui s'inaugure. Je ne sais pas où ça va finir. De toute façon, je suis très reconnaissante et très heureux d'être parmi vous et je remercie l'invitation que Alberto et Ambrin m'ont fait de partager cette magnifique journée. Ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat sur les différents travaux qui ont été présentés. Moi, j'aimerais finir par dire mon admiration sur les films de Victor et son fils Maximiliano. Il a une telle capacité de profondeur et de simplicité qui lui donne une éloquence particulière. Moi, je ne suis pas analyste de la première enfance, et néanmoins, chaque psychanalyste a besoin d'avoir une fiction sur les origines, une hypothèse sur la naissance du psychique. Moi, j'avais parcouru pendant longtemps les théories kleiniennes des positions de l'Édipe précoce, après les considérations lacaniennes sur l'expérience des satisfactions et les cycles de besoins, de la demande et du désir. Et là, cette sorte de théorie totalisante n'ont rien à faire avec ce détail minutieux des primautés de l'expérience qui transmet les vécus de pouvoir regarder ce film. J'ai pris la parole pour demander aux jeunes qui sont présentes de la réviser là. Et encore une fois, merci d'être parmi vous.
Peut-être l'élément de la fin, c'est qu'on a commencé cette journée avec une douleur dans l'âme, beaucoup d'émotions, d'affect. Je pense que c'est ça qui nous a porté. Et je suis personnellement content de pouvoir traverser cette douleur, cette blessure, de savoir que Victor n'est pas là pour discuter directement et en personne et en présence avec lui. Et, mais que ça, ça ne nous a pas empêché de pouvoir créer un mouvement créatif, des dialogues, et qu'à travers ces travaux, Victor continuera à être, comme dit si joliment Anne Brun, un de nos interlocuteurs imaginaires avec lesquels nous continuerons à être en dialogue. C'est peut-être l'invitation à la fin de cette journée. Et voilà, partons avec cet interlocuteur imaginaire qui était Victor. Voilà. Bonne soirée.